Notre invité d'honneur est parmi nous, Alejandro Jodorowsky. C'est la fameuse table ronde telle qu'elle est annoncée, nos ombres et lumières dans les contes. C'est ça, Marc, c'est toi qui a choisi cet intitulé.
Tout à fait.
Je représente quand même tout le monde. Marc, qui est à la fois éditeur de spiritualité surtout et aussi auteur de témoignages, de textes, de réflexions et également... on peut dire collecteur et finalement auteur de recueils de contes, et notamment de contes zen. Tu as été parmi les premiers à publier des contes zen.
Oui, j'ai eu la joie de te publier quand tu étais aussi encore un jeune homme qui avait envie de t'intéresser aux contes. Et on a fait un très beau recueil avec Pascal qui s'appelle « Les contes des arts martiaux ».
Oui, qui a un succès international.
Oui, qui continue à marcher incroyablement bien.
Mais en tout cas, tu m'as donné ma première chance et tu vois, il y a un cycle. Finalement, tu m'as aussi donné un coup de pouce là, pour ces rencontres. Je t'en remercie.
Il faut aider toutes les initiatives qui peuvent donner un peu de sens à ce que nous vivons et qui peuvent nous faire avancer tous d'une manière ou d'une autre.
Alors, à tes côtés, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui compte toujours, mais qui a quand même beaucoup compté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand j'ai tourné un bouton d'autoradio, j'ai entendu une voix d'outre-monde qui racontait des légendes. C'était complètement surréaliste pour moi d'entendre ça sur des médias dans les années... fin des années 70. Et je me suis dit, mais voilà, moi qui cherchais désespérément quel métier honorable je pourrais faire dans cette société, je me suis dit, tiens, voilà une piste. Et ça a fait son chemin. Et Henri aussi m'a mis le pied à l'étrier pour une collection, la collection Contes des sages au seuil, qui m'a permis de réaliser quelques rêves également. Parce qu'en fait, c'est ça, je crois que le conteur, c'est aussi celui qui a envie de partager des histoires qui l'ont touché, qui l'ont fait vibrer. Et il a envie aussi de les partager avec d'autres pour qu'ils vibrent avec lui. Et enfin, et pas des moindres, Alejandro Jodorowsky, qui est multi-auteur, on peut dire, multi-artiste, entre auteur de romans, de théâtre, de BD, cinéaste, poète... et finalement, conteur aussi. Moi, j'ai été bien sûr touché par vos œuvres aussi en étant adolescent, parce que finalement, il y a certaines influences qui nous atteignent à travers justement des œuvres d'artistes et puis qui nous nourrissent et qui nous orientent. Comme vous êtes un éternel jeune homme, j'ai découvert que vous étiez lancé dans un nouveau cycle, celui des Chevaliers d'Héliopolis, où là, vous avez fait la démonstration du thème de ces rencontres, de ce salon du livre Patrimoine et Imaginaire, parce que vous avez pris une légende, une célèbre légende de l'histoire de France, celle qui voudrait que Louis XVII ne serait pas mort dans la prison du Temple, qu'il aurait survécu, et vous avez imaginé sa vie. Et bien sûr, il a rencontré des alchimistes, des personnages qui l'ont sorti en tout cas de la politique et du goût du pouvoir pour l'emmener ailleurs dans une quête spirituelle. Voilà, donc j'ai été aussi très touché par... Et j'ai trouvé que vous étiez complètement en correspondance avec ce qui nous réunit ici.
Merci.
Ouais, j'ai plus rien à dire, je crois que... maintenant, c'est à vous. Ben, c'est toi, Marc, qui a trouvé ce thème. Alors,
Écoutez, ombre et lumière dans les contes. Pourquoi ombre et lumière dans les contes? Parce qu'en fait, les contes sont le reflet, en quelque sorte, depuis, je pense, l'origine de l'humanité, depuis que l'être humain s'est parlé et raconte des histoires, de toutes nos aventures dans la vie et de toutes nos quêtes et de toutes nos recherches personnelles et de notre questionnement au monde, le fameux questionnement qui est « qui suis-je, où vais-je, dans quel état j'erre ?» qu'est-ce que je fous ici, etc., etc. Et donc, les contes sont le reflet de tout ça. Et pourquoi ombre et lumière dans les contes? Parce que en chacun de nous, il y a vraiment le pire et le meilleur. Et nous le savons bien que nous sommes complètement habités par des tendances négatives, des tendances positives, et qu'il faut réussir à équilibrer un peu tout ça. Et donc je me suis dit que c'était intéressant avec... parce que moi, je ne suis que... Il m'est arrivé de compter des choses, il m'est arrivé surtout d'éditer des contes, dont ceux de ces messieurs. Mais je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une petite discussion à travers peut-être des contes, puis à travers des remarques, avec ces deux grands ténors conteurs que sont nos amis Jodorowsky et Gougaud. Bon, personnellement, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je peux juste peut-être raconter une ou deux histoires zen illustrant un peu cette histoire d'ombre et de lumière. Il m'en vient en tout cas une, deux, tout de suite à l'esprit, qui sont d'abord une histoire de samouraï et d'ermite. C'est un samouraï célèbre, très fort, très puissant, mais visiblement très tourmenté, qui va voir un ermite dans la montagne, retiré au loin, et qui lui dit « Est-ce que le paradis et l'enfer existent ? Est-ce que l'ombre et la lumière existent ?» Et l'ermite se tait, puis le regarde, et se met à l'insulter. Mais à l'insulter salement. C'est-à-dire qu'il lui dit « Mais qui es-tu, espèce de samouraï dépenaillé ? Tu as du sang qui est séché sur ton armure, tu pues la mort !» Tu es vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que tu viens me poser ce genre de questions? Tu m'écoutes vraiment, tu pars hors de ma vue, etc. Et le samouraï, au fur et à mesure que l'autre l'insulte, parce que je passe toutes les insultes qu'il peut lui raconter, rougit, devient cramoisi, et puis met la main sur son épée et se met à la dégainer, évidemment, pour trucider l'ermite. Et l'ermite, à ce moment-là, le regarde et lui dit « Voilà que s'ouvrent les portes de l'enfer. » Et le samouraï le regarde, pâlit et rengaine son épée. Et l'ermite lui dit « Voilà que s'ouvrent les portes du paradis. » Voilà. Petite histoire, la première de l'ombre et la lumière. J'en raconterai peut-être une autre, mais vous avez peut-être envie de rejaillir là-dessus, mes amis.
Oui, je pensais à quelque chose que m'avait dit un vieil ami un jour. Il me dit, quand tu es dans la lumière, tu fais de l'ombre. Mais si tu es dans l'ombre, la lumière, c'est toi. C'est pas mal, hein ? En pensant à ça, c'est ce qui, curieusement, comment s'enchaînent les idées. C'est ce qui m'a fait penser, curieusement, à la naissance, à ce qui a pu être, je ne sais pas. Nous sommes au Festival de l'Imaginaire, donc on peut se permettre d'imaginer. Qui m'a fait penser à ce qu'a pu être la naissance des contes. C'est une histoire qui m'a toujours un peu obsédé, quand même. Comment sont nées ces histoires sans auteur ? Qu'aucun livre pendant des millénaires n'a porté. Comment ils sont nés, on ne sait pas. Mais on peut imaginer. J'avais imaginé un jour que, justement, c'était une histoire d'ombre et de lumière, peut-être, d'une certaine manière, que j'imaginais que, au temps préhistorique, au temps où les gens vivaient dans des cavernes, il avait pu y avoir une nuit. Dans la nuit de la caverne, une femme qui berce son enfant et que son enfant ne puisse pas dormir. Il ne pouvait pas dormir, son enfant, il avait peur. Il avait peur de la nuit, il avait peur que le jour ne revienne pas, en fait. Voilà, et cette femme-là, bercée, et peut-être que par amour, par lumière donnée, on ne sait d'où... lui est venue l'idée de lui chantonner quelque chose, de lui dire un mot ou deux, quelques mots pour le rassurer, pour faire en sorte qu'il puisse se reposer, qu'il puisse dormir. Et c'est là qu'elle lui a raconté, pour chasser l'angoisse de son enfant, la première histoire du monde. Et cette première histoire du monde, c'est cette lumière qui a donné naissance à toutes les littératures du monde. Est-ce que vous imaginez ça? Parce que ça, on le sait. Ça, on le sait. Toutes les littératures du monde sont nées d'une histoire qu'un jour, une femme ou un homme a racontée pour chasser l'angoisse, pour chasser l'angoisse de la nuit. Voilà.
Bon, il faut s'habituer à mon accent. Au bout de 2 minutes, vous allez comprendre. Bon, il y a un jeune étudiant avec son maître. Il lui dit, maître, racontez-moi une histoire qui me donne la lumière. Et le maître lui raconte cette histoire. Il y a un empereur qui aime beaucoup la peinture. Et il y a 2 peintres sommés de tous les peintres du royaume. Alors il va faire une compétition dans une chambre rectangulaire longue. Il va donner dans un mur l'espace pour un peintre et dans le mur d'en face l'espace pour l'autre peintre. Avec un rideau dans la moitié, ils vont peindre leur tableau, on va enlever le rideau et l'empereur va donner un prix à la meilleure peinture. Ah oui, maître, belle histoire, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le premier peintre que je vais te parler, il dessine avec une perfection énorme les formes, les couleurs, les détails, il est dans tout. Il fait un paysage avec des personnages énormes, merveilleux. Pendant qu'il peint, on écoute à l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il fait l'autre, un bruit. Alors, on découvre le rideau et on voit qu'il a poli le mur comme un miroir qui reflète la peinture de l'autre. Et l'empereur lui donne le prix au reflet. Mais maître, je ne comprends pas, c'est injuste, il a volé sa peinture. Et vous me racontez cette histoire comme illuminatoire. Quelle illumination si vous, l'empereur donne un prix à celui qui vole. C'est que l'autre vraiment a fait, ce n'est pas possible. Écoute, je dis, tu ne comprends rien. C'est une histoire, ce sont des mots, les mots, ce n'est pas la chose. Tu m'as demandé une histoire qui t'illumine. Voilà l'histoire. Moi, je te raconté une histoire. Et toi, tu dois la refléter et l'améliorer. Parce que c'est ça, transmettre les contes. Moi, j'ai fait les contes. Mais toi, tu dois les capter, les reproduire et l'améliorer. C'est ça.
Alors, c'est marrant parce que alors, j'avais carrément presque la même histoire, mais un peu différente. Oui, voilà, c'est un peu différente. Alors, je vous raconte quand même l'histoire un peu différente. Donc, c'est toujours l'empereur, c'est toujours des peintres. Là, il y en a plusieurs, mais finalement, il a une sorte de jury en choisit 2. Et là, c'est une perfection absolue qu'il a fait. Tout est beau. C'est un paysage léché, magnifique, sublime, incroyable. Et l'autre, par contre, c'est un paysage terrible. Terrifiant, horrible, vraiment ombre et lumière. L'un, un paysage lumineux, l'autre, le paysage infernal, complètement obscur. Mais, dans un coin de ce paysage horrible, il y a, dans un petit nid, avec 2 petits oiseaux qui se bécotent, qui couvent peut-être des œufs, et, un moment, dans cette peinture horrible qui fait peur, un immense moment de calme. Et l'empereur choisit ce tableau-là parce qu'il dit, eh bien, c'est la vie du monde. On vit dans un monde qui n'est pas un monde idéal, on vit dans un monde difficile, mais il y a quand même, à l'intérieur de ce monde, le calme et la lumière qui existent, et ce peintre-là a réussi à rendre cette lumière qui est aussi, et ce calme qui est aussi à l'intérieur de chacun de nous, mais qu'il s'agit en effet de trouver. Voilà, donc, suivant les contes... On se balade comme ça, mais l'ombre et la lumière est toujours là.
Tu veux un conte ?
J'en connais pas.
C'est l'histoire d'une princesse. D'une princesse qui s'était promis de n'épouser qu'un homme entre tous poétique, surprenant, imaginatif. S'était promis de n'épouser qu'un homme qui serait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, de l'emplir de n'importe quoi pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des charretées de paille, de plumes, de sable ou de confetti. Bref, ils travaillèrent, ils entassèrent, ils s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put remplir l'espace à ras-bord, comme il le fallait. Or, un matin, vint un jeune homme, il n'avait qu'un sac à l'épaule, il était joyeux, tout frisé. Le matin, il fit la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, puis il se fit servir du thé. Enfin, comme le soir tombait, il tira de son sac un chandelier de cuivre un peu terne, un peu cabossé. Il le planta là sur la table, planta dedans une bougie, bâtit son briquet, l'alluma, et la lumière fut partout, jusqu'aux quatre coins du plafond. Alors, ce petit conte d'habitude finit là, sur cette lumière, mais quand même il arrive que certains le poussent un peu plus loin. Car il paraît qu'au soir des noces, la princesse dit au garçon « Il est, dans mon appartement, un lieu demeuré dans le noir. »« Ah bon ? Lequel ?» dit le garçon. Vous avez deviné ? Mais non, pas l'origine. Que tu vas chercher l'origine ? Non, non, le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. Eh oui. Et pourquoi n'en as-tu rien dit ? Dit le jeune homme. « Parce que je suis, dit la princesse, toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière. Je garde et garderai toujours, comme elle, une part de ténèbres, de mystérieuses obscurités où personne jamais ne pourra pénétrer. »
Moi, je dirais aux choses plus simples. Cette histoire m'a changé la vie à moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup raconté cette histoire parce qu'encore, elle me change la vie aujourd'hui. Elle est simple. Il y a un village, et il y a une grande montagne qui, avec son ombre, cache la lumière du soleil et les enfants de ce village grandir rachitique. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de lumière. Et un jour, on va sortir un vieillard avec une petite cuillère de porcelaine hors du village. Et quelques personnes le demandent, où tu vas ? J'y vais à la montagne. Tu vas à la montagne ? Et qui ? Pourquoi tu vas à la montagne ? Et pour la changer de place. Mais avec quoi tu vas changer la montagne de place? Avec cette petite cuillère de porcelaine. Ah, jamais tu pourras. Oui, jamais je pourrai, mais il faut que quelqu'un commence. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire. Moi je voyais le monde que c'était comme la montagne qui nous empêche de... On veut changer le monde. Je me suis dit, je ne peux pas changer le monde. Mais je peux commencer à me changer moi-même. Et bon, quand je me change moi-même, qu'est-ce que je fais? Mais j'enrichis le monde et le monde change.
Il y a une chose qui est importante aussi dans cette histoire d'ombre et de lumière, c'est quelque chose que l'on vit dans notre vie quotidienne. Et je vais raconter une dernière histoire. On va voir si nos amis ont envie de rejaillir là-dessus. C'est le fait que nous sommes tous, en quelque sorte, comme le dit très bien l'adage populaire français, perdus, noyés dans nos pensées. Hein, on peut se rendre compte chaque jour qu'on est là, complètement habité par ce que les orientaux appellent le singe fou, le cheval fou, c'est-à-dire notre mental qui est là, qui est en train de tourner en rond, qui est en train de ressasser des trucs, de penser à des futilités ou à des angoisses, à des préoccupations diverses, etc. etc., etc., etc. Et que ceci est vraiment quelque chose qui est très pesant en nous et qu'il faut apprendre à, en quelque sorte, gérer et savoir se débarrasser. Il y a une très belle histoire zen qui raconte un peu quelque chose là-dessus et qui est celle de deux moines qui sont en train de cheminer, de rentrer dans leur monastère. Ce sont des moines d'un ordre un peu strict, dirais-je, puisqu'ils ont fait vœu de chasteté. Et il y a d'autres ordres où c'est moins le cas. Et ils arrivent à une rivière qui est gonflée par les eaux, parce qu'elle est un peu en crue. Et il y a une jeune paysanne, jolie paysanne, qui est là au bord de cette rivière et qui dit « Je n'arriverai pas à traverser, est-ce que vous pouvez m'aider ?»« Oui, » dit un des moines, « écoutez, montez sur mes épaules et je vous fais traverser. » Et ils traversent tous les trois. Il la dépose, elle remercie, elle prend un autre chemin et eux, ils continuent leur route. Et le moine qui l'a porté, il est là, il y a le printemps, il écoute les oiseaux, il regarde la nature qui est belle, etc. Tandis que l'autre fait la gueule à côté de lui. Et puis ils arrivent en vue, après 2 ou 3 heures de marche, en vue du monastère, au loin, là, dans la. Et il dit « Ah ben, on va enfin arriver ». Puis ils sont derrière lui, il dit « Mais écoute, tu vas pas bien, tu es malade, pourquoi tu fais cette tête ?» sans arrêt. Et l'autre lui dit, notre ordre nous dit que nous ne devons plus toucher une femme. Et alors il lui dit, ah bon ? Ah, c'est ça qui t'a habité pendant tout ce temps ? Ben écoute, moi je l'ai porté le temps de traverser la rivière et toi tu l'as porté tout le temps de la journée jusqu'ici. Et je trouve que c'est une magnifique métaphore de ce qui nous arrive sans arrêt. C'est-à-dire qu'on est là très souvent à ressasser des tas d'inutilités, d'illusions, de tas de choses comme ça, etc., qui nous encombrent au lieu de simplement apprendre à profiter de la vie. Et c'est aussi ce que nous enseignent les contes. C'est-à-dire comment, n'est-ce pas, messieurs, comment apprendre à vivre la vie du bon côté de la vie.
Je peux répondre pour vivre du bon côté de la vie. Et là, il y a une guerre, c'est au Japon, où ils se tuent les samouraïs. Et bon, il y a un général qui tue toute l'armée ennemie. Et il reste tout seul et ensanglanté. Il rentre dans les villages et tout le monde s'échappe comme ça parce que les monstres viennent terribles. Et il arrive dans un temple, dans la porte du temple, il y a un moine, un vieux moine qui est tranquille. Et le gars lui dit, les samouraïs, comment tout le monde s'échappe, me respecte, regarde le sang des autres qui me couvre. Et toi, tu es là, tu n'as pas peur. Chut. Avec un seul coup de cette épée, je peux te couper en deux, sans sourciller. Alors le moine dit, bon, vous, sans sourciller, pouvez me couper en deux, mais moi, sans sourciller, je peux me laisser couper en deux. Voilà, il se vit, il y a une force physique, toujours la matière et toujours l'esprit. Et la force de la matière est grande, mais la force de l'esprit qui rentre dans la matière et qui l'épouse est plus forte. Et voilà.
Oui, je vois que les contes zen sont beaucoup à l'honneur là, mais en fait ça n'a pas été si simple. Le zen ne s'est pas imposé si facilement au Japon. Hein. Non, parce qu'en fait c'est très très difficile de faire le silence. Et donc au départ, il y avait déjà des moines au Japon qui étaient d'autres écoles bouddhistes où ils avaient une habitude de philosopher, d'avoir des entretiens métaphysiques, même des joutes oratoires. Et donc, c'était très difficile de les faire méditer pour qu'ils se libèrent suffisamment des pensées, qu'ils fassent le vide en eux, qu'ils deviennent comme un bol, parce que le bol n'est utile que parce qu'il est vide. S'il est plein, il devient inutile. Donc, se vider pour finalement laisser tout l'univers nous pénétrer, l'esprit inconditionné. Et donc, c'était vraiment une rude tâche pour les patriarches du Zen d'arriver à faire méditer ces moines bavards, impénitents. Et parfois, ils devaient leur imposer des séchines de silence. C'est-à-dire qu'ils leur demandaient pendant une semaine de ne pas parler, mais pas dire un seul mot, de rester en méditation, en zazen, assis, un peu comme nous ici, comme ça, en randonnion. Et alors souvent, dans une dépendance du temple, pour ne pas être dérangés, donc ils étaient là, les moines les plus bavards, devant, rester assis. Parfois, pour les aider, on mettait une petite statue de Bouddha qui leur montrait l'exemple, en méditation, bien entendu, avec une petite lampe à huile devant qui leur permettait de fixer leur regard. Et alors donc là, il y avait 4 moines qui étaient donc assis en zazen, une semaine de silence absolu, de méditation intense. Il y avait un des servants du temple qui venait leur apporter quand même un bol de soupe et puis remettre un peu d'huile dans la lampe. Et voilà qu'un soir, il s'en va en oubliant de mettre de l'huile. Et l'un des moines s'en rend compte et il se dit, s'il ne met pas d'huile, ça va s'éteindre, on va tous vite plonger dans le sommeil, on est déjà épuisé par cette méditation intense. Alors, il ne peut pas s'empêcher de murmurer, « Hé, mon garçon, n'oublie pas l'huile !» Son voisin se tourne vers lui et lui dit, « C'est malin, tu as parlé !» Le troisième dit, « Mais vous n'êtes vraiment pas malins tous les deux, vous avez tous les deux parlé !» Et l'aîné à côté murmure entre ses dents, heureusement que moi je montre l'exemple. Je n'ai rien dit. Et voilà, c'est donc une leçon, combien il est difficile de s'appliquer surtout à soi-même la discipline du zen.
Tu permets que je fasse un petit commentaire. C'est un commentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ton histoire, mais il y a une partie où j'ai pensé qu'on pourrait donner une interprétation positive à ce que tu as dit négatif. Il y a un bol, il vaut parce qu'il est vide, tu as dit. Et quand s'il est rempli, il n'est pas bien. Ça dépend, parce que les vols pleins ne vaut rien s'il ne donne pas ce qu'il y a dedans.
Ah.
Mais s'il les donne, il vaut beaucoup.
Bravo.
Bon, alors, je ne sais pas, on peut vous raconter des histoires comme ça. Je crois que ça serait bien que vous interveniez, que vous posiez des questions, que vous nous relanciez peut-être, je ne sais pas. Que tout se passe sur le mode sinon d'une conversation, du moins d'un échange quand même.
Est-ce qu'en devenant connu, vous êtes passé de l'ombre à la lumière ?
Bien sûr que non. Parce que pour soi-même, on est toujours ombreux. De toute manière, pour soi-même, moi, je me vis comme un sac d'ombre. Je n'arrive pas toujours à me comprendre, disons. Enfin, je veux dire que c'est comme si vous disiez... Mais c'est très curieux ce genre de question. C'est comme si vous disiez que demandez si le fait d'être célèbre, ça vous enlève sur votre ulcère à l'estomac. Ça n'a rien à voir. Enfin bon, je ne sais pas ce que tu as à dire là-dessus.
Bon, parfois je m'évade, j'étais en train de penser. Je vais te dire ce que j'ai pensé, une histoire que je connaissais, et je m'excuse, mais c'est comme ça que c'était. Il y a un fou dans une maison de fous qui est en train de manger une banane complète avec la peau, non ? Et quelqu'un s'approche, il lui dit, mais pourquoi ? Tu ne l'ouvres pas. Pourquoi je vais l'ouvrir ? Je sais ce qu'il y a dedans. Mais le commentaire, c'est que les personnes sont comme une banane qu'on n'a pas, avec la pelure, tu vois. Et parfois on dit, oh, j'ai la traite comme j'ai la traite, mais je ne sais pas ce qu'il a dedans. Et je ne sais pas. Tant que je ne sais pas ce que ce corps porte dedans, je ne peux pas l'absorber. C'est pas une relation. Alors il ne faut pas manger des bananes avec la pelure.
C'est une question un peu particulière. Je me demande, en fait, quand on côtoie finalement autant l'enchantement par le biais du conte, comment on peut après réussir à finalement vivre la réalité dans laquelle on vit ? Et comment réussissez-vous à, voilà, à pouvoir allier les deux, et l'enchantement du conte et la réalité ? Est-ce que c'est par le biais de la transmission ou, je ne sais pas si je suis claire, je le suis dans ma tête, mais peut-être pas oralement.
Moi, je pense que la solution, c'est mettre à la place de l'autre. Généralement, on est à la place de soi-même. Et très peu de fois, à la place de l'autre. Et il y a un psychanalyste qui est là, et une femme rentre, et il la trouve belle, et il dit, déshabillez-vous. Quoi ? Déshabillez-vous ? Montez là, à quatre pattes sur cette table. Elle monte, le psychanalyste se prépare, il la pose. Après, il arrête et dit, madame, j'ai solutionné mon problème. Quel est le vôtre ? Il ne se met pas à la place de l'autre, tu comprends ?
Je remarque, je ne sais pas si ça répond à la question, ça. Je ne suis pas sûr. Non, mais moi, je suis un mec consciencieux. J'essaie de répondre aux questions qu'on me pose. Donc, je ne suis pas un poète surréaliste, moi. Tu vois, je ne suis qu'un conteur. Je ne suis qu'un conteur qui raconte des histoires. Et la question, c'était comment on fait pour passer d'un univers à l'autre ? Oui, mais... Hein ? Sans s'y perdre. Mais moi, je ne passe pas d'un univers à l'autre. Je considère le conte comme un art de la relation. Le conte, pour moi, c'est le moyen de d'établir... Parce que je crois que le malheur fondamental de l'humanité, c'est la solitude, de se retrouver seul, à penser ce qu'on pense, à ressentir ce qu'on ressent, à vivre ce qu'on vit, de se retrouver seul. On est tellement obsédé par ça. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il y a périodiquement. Alors, l'humanité, où chacun à notre niveau, on vit avec cette peur d'être seul, c'est-à-dire d'être au monde, enfin, de n'être nulle part, quoi. Et je crois que peut-être, entre autres, il y a de multiples raisons, sans doute, pour lesquelles on a inventé les contes, mais peut-être qu'il y en a une qui est que le conte sert à ne pas être seul. Le conte, c'est l'art de la relation dans la mesure où il permet à deux personnes ou à un groupe de personnes de ressentir les mêmes choses, de rire aux mêmes choses, de s'émouvoir aux mêmes choses. Et donc, à partir du moment où on rit, on réagit, on s'émeut aux mêmes choses, on n'est pas seul. Tu penses comme moi. Ah oui, tu ressens comme moi. Moi, je vais, en tant que conteur, je vérifie sans cesse que je ne suis pas seul. Voilà. Donc, je ne passe pas d'un monde à l'autre. Moi, je suis un peu obsédé par celui-là.
Monsieur Jodorowsky vient de dire qu'il avait encore du temps devant lui. Et je suis mandaté par mon neveu pour lui poser la question de savoir quand va-t-il tourner Dune.
Il y a des choses, tu vois, que c'est bien qu'elles ne soient pas faites. Parce que quand une chose, on ne la fait pas, toutes les forces de l'univers étaient ensemble pour que ça n'arrive pas. On ne peut pas lutter contre les forces de l'univers. Il y a un dicton zen qui dit, quand tu ne peux pas faire quelque chose, laisse que ça se fasse. Tu ne peux pas le faire, laisse que ça se fasse. Voilà, c'est ça la réponse. Il avait une telle force dans l'intention el intento, la intención, que ça a survécu le temps. Et il y a quelqu'un qui a fait une interview et a raconté la geste, l'histoire. Non, pourquoi on ne l'a pas fait? Et c'est mieux une chose qui n'a pas été faite, mais qui traverse le temps, parce que c'est toute la force de la volonté de faire qui traverse le temps. Et qu'est-ce que c'est nous, notre civilisation? C'est ça. C'est l'intention de faire quelque chose qui vaut beaucoup, autant que faire la chose. Alors, je reste. On m'a demandé plusieurs fois de publier les livres. J'ai dit non. Faire les films, non. C'est bien comme c'est. Parce que ça devient une légende. Et là, les contes et les légendes, parfois, sont plus fortes que la réalité historique. C'est ça ma réponse.
Merci.
Mais je peux raconter une autre histoire de la mienne. Là, à moi, ça m'a changé la vie aussi. Cette histoire, je ne sais pas si c'est une histoire, si c'est une blague, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une blague. Parce qu'il y a un milliardaire non, qui va mourir parce qu'il a une maladie il est resté trois mois de vie. Alors il donne une grande fête, très élégante et tout, la grande fête. Et il dit à toutes les personnes qui sont venues, il dit, écoutez, moi je m'en vais. Je laisse tout ça, je n'ai pas d'héritier. Alors, voyez-vous cette piscine? Elle est remplie de crocodiles. Cocodrilo, c'est crocodile. À celui qui se jette à la piscine et traverse la piscine, je le laisse tout. Qui se jette à la piscine? Tout le monde me dit, c'est un féroce crocodile, c'est terrible. Et tout d'un coup, on voit un gars qui nage là dans la piscine et qui donne des coups de pied au crocodile, qui monte, qui on le mord un morceau, et il traverse. Et le milliardaire le bras et dit, voilà le champion, c'est un héros, il est tout. Quel champion, ni quel champion, qui était l'imbécile qui m'a poussé. Bon, moi, tu sais, parfois, j'ai fait ce... de ces seuils de guérison artistique que j'appelle psychomagie. Et je donne un conseil à quelqu'un, une chose que jamais il a fait, qui le demande un héroïsme. No? Par exemple, un qui était timide, je lui dis, sors de ta maison et va au café du coin prendre un café. Mais ça, c'est facile. Oui, c'est facile, mais va tout nu. Va et reviens, c'est tout. Alors, si cette personne se guérit de la maladie ou des problèmes, je vis que la personne est... et hargné, il ne te remercie pas. Parce qu'au fond, on ne veut pas solutionner les problèmes, on veut être traité, on veut qu'on se passe la douleur, mais on ne veut pas savoir qu'est-ce que ça qui produit la douleur. Ce n'est pas savoir être avec soi-même. Et qu'est-ce que c'est soi-même, au fond? C'est nous tous. Tant qu'on ne vit pas avec soi-même, comme non moi-même, sinon nous tous, à ce moment-là, on est tout seul. J'ai dit.
Je voudrais savoir, quand vous avez parlé au début, vous avez dit la mère et l'enfant. La femme, elle n'existe pas toute seule. Ou alors, elle existe sous forme de princesse. Est-ce qu'elle existe autrement? Est-ce qu'elle existe libre? Et puis, l'homme, on le voit où aussi? Ombre et lumière, on le voit surtout dans l'ombre, parce que le mal, c'est surtout l'homme, c'est la guerre, c'est la méchanceté, c'est le pouvoir, et ça donne le mal.
Quelle est la question?
Ben, c'est ça, justement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'on retient des contes quand on voit ça? Parce que, en fait, c'est ce qu'on voit. Le bien, est-ce qu'il triomphe vraiment que dans les contes? Et dans la vie, il ne triomphe pas, le bien, avec un B majuscule.
Oui, est-ce que le bien triomphe dans la vie, parfois? Il triomphe dans les contes. On sait que les contes merveilleux se terminent bien. La princesse va être épousée. Voilà. Donc, mais par contre, est-ce que dans la vie, ça arrive alors?
Elle a une erreur. Parce que la vie, s'il n'y a pas le bien et le mal, les grandes erreurs, c'est l'intellect qui divise les choses. C'est Trump. Voilà les méchants. Et nous sommes les bons. C'est les cowboys. Il faut trouver les méchants et que la lutte entre le bien et le mal. Et ce sont complémentaires, les bien et les mal sont des complémentaires nécessaires ensemble. Sans mal, il n'y a pas bien, sans bien, il n'y a pas mal, c'est très simple.
Oui, non, mais il y a une des choses les plus fondamentales que j'ai pu apprendre et qui m'a le plus servi et qui me sert le plus, c'est à l'époque où je travaillais avec mon ami Louis au livre qui est finalement sorti sous le titre des Sept plumes de l'aigle. Il me disait des choses, des tas de trucs. Parfois, je l'arrêtais, je lui disais, mais c'est vrai ou c'est faux, ce truc? Il me regardait d'un air de dire, mais pourquoi il me pose cette question? Parce que je lui disais, mais moi, j'ai besoin de savoir si c'est une vérité objective, les esprits, par exemple, ou pas. Il ne me répondait jamais. Et un jour, il m'a dit, mais vous posez des questions de riches, vous. J'ai dit, de riches? Pourquoi de riches? Parce que nous qui sommes pauvres, on s'en fout que ce soit vrai ou faux. L'important, c'est de savoir si on peut s'en servir ou pas. Est-ce que je peux me servir de ça ou je ne peux pas m'en servir? Si je ne peux pas m'en servir, je jette. Et c'est ce à quoi me fait penser votre question. Les contes, ils ne visent pas à faire en sorte que le bien se réalise sur Terre. Ce n'est pas un conteur qui va changer la façon de voir le monde aux politiques. Non, simplement, les contes sont là pour vous donner des forces, pour vous donner envie de vivre, pour vous pousser du côté de la vie. Est-ce que les contes vous donnent des forces ou pas? Si oui, continuez d'en écouter ou d'en écrire ou d'en raconter. Sinon, passez à autre chose.
Alors, il y a un roi qui le dit au Prisaï du royaume, qui le raconte une seule phrase. Alors, il le dit très bien, il s'en va et il arrive avec une bague, qu'il a une petite boîte. Il le dit, voilà la phrase, il est dedans cette petite boîte. Mais promettez-moi, pour que je vous la donne, que jamais vous la lirez avant que vous avez perdu tout, les royaumes, la famille, l'argent. Allez, quand vous aurez tout perdu, ouvrez et lisez ma phrase. D'accord. Il rigole. Il n'y a rien parce que jamais je vais tout perdre. Et il perd tout parce qu'il vient de barbare, il perd tout. Alors il ouvre la bague et c'est écrit, ça aussi passera. Ça va passer aussi. Ça aussi passera. Et c'est ce qu'il dit. Les contes sont pour te donner l'esprit qu'il faut continuer.
Non, mais c'est clair que l'ombre et la lumière, le bien et le mal, mon maître, cher maître Zen d'Ishimaru, il disait, sont les deux faces de la même médaille. Mais c'est comme dans notre monde binaire, le jour et la nuit. Lumière et obscurité, nous sommes. Et donc, en effet, les contes ne font qu'illustrer cela et le principe de surtout y aller.
C'est ça. Qu'est-ce que c'est les noirs, la lumière, le bien et le mal, c'est double face de la lumière? C'est très simple. C'est la matière. Et c'est l'esprit. Et tout c'est matière, esprit. Et les grandes erreurs, c'est séparer l'esprit de la matière. L'esprit est bon, dit l'Église, la matière, il faut la laisser. C'est comme ça. Et le marxisme, la matière est bonne, l'esprit, il faut la laisser. Et on sépare les deux choses. Mais les deux choses vont ensemble.
Ça me fait quand même penser à une histoire qui est très célèbre dans le monde du zen. Vous savez donc combien c'était difficile de trouver ce fameux silence au-delà des mots, avec ce grand principe zen qui dit que les nuages blancs vont et viennent, les pensées, seule la montagne bleue demeure. Donc voilà que les moines zen essayent de trouver cette attitude intérieure inconditionnée. C'est très difficile et il y a le supérieur d'un ordre monastique qui, pour encourager la pratique du silence, décide que dorénavant, dans tous les temples, les monastères, les dépendances, il y aura la règle du silence absolu. On ne communiquera plus que par des mudras, des signes. Et alors, pour encourager cette pratique aussi, un moine pèlerin ne pourra entrer dans un monastère que s'il gagne la joute métaphysique, la joute philosophique, avec que des signes. Et donc, il y en a un qui est en route, il arrive à l'entrée d'un monastère, il sonne le gong, et voilà que la porte grince, il y a le portier qui sort. C'est un malabar, il est borgne. Et l'autre arrive, le salut. Le pèlerin avait médité la première question qu'il allait poser. Et donc, il fait ce geste magistral, ce mudra que, bien sûr, vous devinez. C'est japonais, hein, la manière d'indiquer. Donc, en fait, il dit il y a un principe unique qui régit tout l'univers. Il n'y a pas de dualité. L'autre, à ce moment-là, fait... Alors, c'est un peu difficile avec le micro, fait ce geste-là. Il y a quand même deux principes opposés, l'ombre et la lumière, qui, de toute éternité, font en sorte que, finalement, le monde tourne, parce que c'est aussi le moteur... Alors, c'est fou tout ce que les signes peuvent dire. Hein. On dit, d'ailleurs, en chinois, que une image vaut 10 000 mots. Alors, à ce moment-là, le pèlerin est obligé de revenir en lui-même. Comment est-ce qu'il peut dépasser cette contradiction ? Là, on est au bord du koan insoluble, et tout à coup, il a le satori, l'illumination. En réalité, il n'y a pas deux principes qui s'opposent. Comme dans beaucoup de traditions, il y a une trinité, il y a un troisième principe. Il y en a un qui réconcilie les deux. Vous avez l'ombre, la lumière, la nuit, les ténèbres, l'homme, la femme. Comment est-ce qu'on les réconcilie ? Par quoi est-ce qu'on peut réconcilier, par exemple, l'homme et la femme ? Un enfant ou l'amour. Et même, on peut réconcilier l'eau et le feu avec la casserole. Ah non, mais c'est fou tout ce que ça veut. Hein. Alors, voilà qu'à ce moment-là, le portier fait ce geste magistral. C'est ainsi que tout retourne à l'unité. Mais où va l'unité ? Là, c'est le koan insoluble. Alors, le visiteur est battu à plat de couture. Il s'incline. Et là, il va être obligé de passer la nuit dehors. Il ne pourra pas dormir dans le temple. Et c'est la première fois qu'il perd une joute philosophique. Il croise sur le chemin le supérieur du temple. Et là, il transgresse la règle. Il ne peut pas s'empêcher de lui dire bah, « Vraiment, votre portier, il a un très haut niveau spirituel. Il m'a vaincu à la joute. » Le supérieur, le portier, qui est-ce qui est de garde aujourd'hui ? Mais c'est le Borg. Mais c'est le plus ignare des moines. Il n'entend rien. Il ne comprend rien à rien. Mais il a dû avoir une illumination soudaine. Alors, il va vers lui, lui demande comment s'est passée cette joute, et le portier dit « Alors, les jeunes moines de nos jours, qu'est-ce qu'ils sont impudents, mais qu'est-ce qu'ils sont mal élevés, aucune éducation. Il est arrivé, il m'a dit « Ah, t'as qu'un œil, toi !» Je lui ai dit « Doucement, ne commence pas comme ça !» Il m'a dit « Écoute, c'est drôle parce que à nous deux, ça fait trois yeux qu'il me dit. » Je lui dis, ça suffit, tu vas le recevoir celui-là si tu continues. Eh ben, il n'a pas insisté heureusement parce que j'allais lui en coller une, moi, dit le portier. Oh, le supérieur dit, heureusement que tu t'es contenu. Parce que ça aurait été un comble pour un moine zen de sortir de ses gonds. Voilà, et depuis ce temps-là, la règle a été abolie. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait quand même des problèmes de transmission si la parole n'était pas utilisée et que les gestes, les symboles seuls ne suffisaient pas, la tradition orale est importante. Et c'est pour ça que les moines zen sont devenus de fameux conteurs et que nous pouvons raconter ces histoires aujourd'hui.
Moi, je pense que le tout est dans ces parties. Dans les parties, il y a le tout. Ça veut dire que si une seule partie craque, et le tout souffre. Une petite pierre dans ta chaussure te fait marcher mal, et c'est une toute, ou dans l'œil, dans ce que tu as raconté, je voudrais mettre à point des petites choses qui ne sont pas si exactes. Il y a les nuages qui passent sur le ciel bleu, mais en bas, il y a la montagne bleue. Ce n'est pas possible, ce n'est pas l'illumination, parce que dans l'illumination, il n'y a aucun adjectif. Les choses sont ce qu'elles sont, non pas ni bleu, ni jaune. Ça, c'est subjectif, la couleur. Alors, il faut... En bas, il y a la montagne. Ça, c'est parfait. Et quand il lève les doigts, ce n'est pas ce doigt. Parce que ce doigt, ce n'est pas l'unité, parce qu'il y a quatre autres. Ça, c'est l'unité. Alors, il fait comme ça. Et ça, c'est l'unité. Donc,
quand il s'en va, il dit au maître, regarde, j'ai fait ça, et on m'a chassé, on m'a dit, j'ai pas compris. Le maître lui répond, pssst, et lui coupe les doigts. Et à ce moment-là, il s'illumine. Parce que même ça, c'est subjectif.
Maestro.
Je voudrais vous raconter pour finir, enfin moi, j'ai pas grand-chose à dire, une histoire de haricots. Une histoire de haricots qui n'est pas un conte, qui est une histoire qui m'est arrivée. D'ailleurs, je parlais de Louis tout à l'heure, et un jour, il arrive avec des haricots rouges. Et il me dit, il faut que vous les semiez, que vous les soignez, qu'ils poussent, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Les haricots... Bon, je vois pas ce qu'ils auraient. Enfin, il insiste assez pour que j'achète du terreau, des vases en plastique et que j'y colle les haricots dedans, que je les arrose, voilà, et que j'attends qu'ils poussent. Puis ils poussaient pas. Ça poussait pas, quoi. Au bout de 15 jours, quand même, il y a un bout de truc qui est arrivé. Et comme je découvre ça, je pense à une histoire qui m'est arrivée quand j'étais tout petit. Enfin, quand j'étais tout petit, quand j'étais au cours moyen, à l'école primaire Jean Jaurès à Carcassonne. J'étais un enfant timide. J'avais été désigné par l'instituteur pour, vous savez, les expériences que vous avez tous faites, je crois. C'est-à-dire qu'on vous donne à l'école, on vous donne des lentilles ou des haricots qu'il faut les... Et il faut les planter, puis on attend qu'ils poussent, quoi. Voilà. Donc, l'instituteur m'avait confié la tâche de veiller sur le plan de haricots qu'on avait planté et que je devais arroser pour qu'ils poussent. Et quand il m'a confié cette mission, il m'est venu une inquiétude. Je me souviens, en classe, je me suis dit, mais il poussera jamais. Il peut comment... Attends, il est sous 30 cm de terre obscure, là, dans le noir le plus total, comment il va savoir qu'il pousse vers le haut ? Plutôt qu'à droite ou à gauche ou en bas ? Comment il va savoir ? J'ai levé le doigt et j'ai dit à l'instit, mais monsieur, comment le haricot va savoir qu'il faut la direction dans laquelle il faut qu'il pousse pour qu'il arrive au jour ? Et ça a été un éclat de rire général. Toute la classe a éclaté de rire. L'instituteur aussi. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai juste été ridicule avec le sentiment en me disant c'est un truc évident pour tout le monde, sauf pour moi. Quoi. Je ne comprends pas, mais ça doit être évident pour tout le monde. Bref, je suis resté avec ça jusqu'à l'épisode des haricots que Louise me donne à planter et à soigner. Et en effet, à ce moment-là, que je vois le petit truc qui pousse la petite verdure, je lui dis, mais comment tu as fait ? Comment tu as fait pour arriver à la surface ? Comment tu savais qu'il fallait pousser dans cette direction ? Et aussitôt m'est venue l'idée, le truc m'a dit, mais moi, j'ai été dans la lumière déjà. Je me souviens de la lumière. C'est ma mémoire qui fait que je pousse vers la lumière. C'est ma mémoire. Et j'ai compris, j'ai eu là la réponse. Et en même temps, et en plus, on a beaucoup parlé, le haricot et moi. Je lui ai dit, mais tu arrives à la lumière, là, comme ça. Alors, tu crois que tu as atteint l'illumination, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'illumination, c'est juste, bon, tu arrives au soleil, mais il va falloir que tu pousses, que tu produises des fruits, etc. etc. Il y a tout un... truc, tout un processus, tu n'en es qu'au début. Tu crois que tu es arrivé, mais tu commences à peine. Et voilà comment j'ai discuté avec les haricots. Mais y a quand même cette idée qui me trouble toujours. Je trouve tout à fait miraculeux que les plantes poussent vers le haut. Parce que quand même, on parle toujours de la pesanteur, de tout ce, la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur, elle a une autre loi contraire, qui est la loi de la germination, c'est-à-dire ce qui pousse vers le haut. Et tout ce qui pousse vers le haut. Voilà. au fond, moi, j'essaie d'être du côté de la germination plutôt que de la pesanteur. Au fond, c'est ça.
Une histoire, ça me plaît beaucoup ce qui était raconté, mais dans un autre point de vue, c'est pas contre, ça parle aussi de planter des choses, cette histoire. C'est un gars qui travaille et qui plante des plantes, du blé par exemple, et il n'arrive pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et il appelle à Dieu, est-ce que tu peux venir pour que je te dise ce qui m'arrive? Et Dieu apparaît. Quel qu'il soit, il apparaît, il dit, qu'est-ce que tu veux? Oh mon Dieu, toutes les années, je plante, ça ne pousse pas parce qu'il y a les corbeaux, il y a les rats, il y a les tempêtes, il y a les vents, il y a les pousses, il y a tout. Et c'est terrible, un tel travail pour faire pousser mon blé. Tu ne pourrais pas éliminer tout ça une année? Ok, cette année, aucun problème. Alors il n'y a corbeaux, il n'y a rien, il n'y a rien, tout est parfait. Donc il attend, oh là là, quelle merveille, mais la graine ne pousse pas, elle pourrit parce qu'elle n'a pas contre quoi lutter. Et c'est beau aussi, n'est-ce pas? Alors, là, c'est ma réponse à ce que tu dis, mais venir parce que la pesanteur, c'est le problème que la croissance doit surmonter. Et s'il n'y a pas de problème, elle ne la surmonte.
Ça me rappelle une histoire qui n'est pas une histoire, d'ailleurs, qui est la vérité, que l'histoire du cocon, le cocon qui produit le papillon, le papillon qui sort du cocon par une fente étroite, où il est très difficile de passer, où il met longtemps, il souffre beaucoup à sortir de son cocon. Le pire service qu'on pourrait lui rendre serait d'agrandir la fente pour qu'il sorte plus vite. Parce que à travers le fait de passer par ce trou trop étroit, il se défait, le papillon, de toutes les pesanteurs, de tous les liquides, les sucres, les trucs, les toxines, je ne sais pas quoi, qui l'empêcheraient de voler si on lui agrandissait le trou pour passer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, voilà, c'est la même chose, c'est ce que tu viens de dire.
C'est la même chose, la césarienne. Il y a de plus en plus de femmes qui font la césarienne et l'enfant n'est pas accouché, sinon n'est comme un tumeur extirpé. Et la naissance se fait entre l'enfant, dopé, endormi. La naissance doit se faire entre les deux, entre la mère et l'enfant qui sort en tournant comme ça. Et va créer ce qu'on dit, ce que tu viens de raconter. Et c'est important savoir ça. Il ne faut pas éliminer la lutte pour réussir. C'est une lutte. Il faut savoir que la lutte est formidable et elle nous fait. Et la lutte pour se trouver aussi, c'est formidable, elle nous fait.
Voilà. Moi, je préfère dire l'effort plutôt que la lutte. Parce que la lutte, ça suppose une guerre. Ça suppose qu'on se batte contre quelqu'un. Alors que l'effort, c'est pas pareil. C'est plus sportif.
La solution, c'est pas rester dans les mots. Comprends ce que je dis, c'est lutte ou guerre, ça va. Le message est là, malgré les mots.
D'accord. Oui, on va s'arrêter. Une dernière petite histoire de germination, parce qu'évidemment, vous m'avez donné une idée. C'est une fameuse histoire orientale, pas que zen, qui compare nous autres tous, à des vers d'eau boueuse, n'est-ce pas? Des vers d'eau boueuse obscure, forcément. Et ils disent que c'est de l'eau agitée, c'est de l'eau qui est qu'on a récupérée dans le torrent de la vie, hein, qui nous salit, en quelque sorte. Et ils disent que ce qui est important, c'est que cette eau, on la laisse reposer de temps en temps. On la laisse se calmer. Et afin que la boue se dépose et que l'eau claire apparaissent. Et la conclusion de l'histoire, et qui est magnifique, et ils disent, c'est parce que la boue se dépose, donc que l'obscurité se dépose dans le moment de calme et que la lumière apparaît en nous dans ce moment de calme, de silence, de respiration, etc., qu'il faut savoir prendre de temps en temps dans les aléas de la vie, que, histoire de germination, la fleur de lotus qui symbole la sagesse peut s'enraciner dans la vase et se mettre à pousser justement vers le haut, dans un enfer comme ça.
Mais je le sais, l'histoire, que la fleur s'enracine dans la boue et monte vers le ciel en amenant la boue.
En amenant la matière.
Oui, transformative, mais qu'elle aille ensemble. Il ne faut pas
c'est
séparer
l'alchimie.
Ça.
Voilà, il ne faut rien séparer, vraiment. Bon, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et...